Bonjour Jean Létocard, merci de répondre à nos questions. Tu es donc infirmier urgentiste à l'hôpital de Lens.
Oui, c'est ça. Alors, je suis infirmier anesthésiste au SMUR et donc à l'hôpital de Lens. Je suis délégué syndical CGT et je suis premier adjoint d'avion et vice-président de la communauté d'Aglo également.
Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur la situation en termes d'admission de patientes et patients à l'hôpital de Lens ? Est-ce qu'on peut parler de saturation à venir, ce genre de choses ?
Oui, alors ce qu'on voit, c'est que le flux de malades grandissait. Là, ça commence un petit peu à se tasser aujourd'hui, mais le flux de malades grandissait de manière continue. Alors plutôt qu'une espèce de grosse vague qui nous arriverait comme ça dans la tronche, c'est plutôt une marée qui monte, qui monte, qui monte et que rien n'arrive à retenir. Le problème, c'est que quand il y a un flux de malades entrant, il faut qu'on ait un flux de malades sortant. Et que contrairement à la première vague de Covid où les gens venaient parce qu'ils avaient été testés positifs mais ils savaient pas trop ce que c'était, voilà. Là maintenant que la maladie est un peu plus connue, ne viennent aux urgences que ceux qui sont réellement malades et qui ont besoin du coup d'être pris en charge, soit aux urgences dans un premier temps, soit voire même une hospitalisation. Et on ne dispose pas forcément du nombre de places adaptées à ce flux de malades qui nous arrive. Alors. On n'est pas encore au pic de la seconde vague, ça c'est sûr, puisque les effets du confinement, il y a toujours un peu d'inertie hein, pour que les effets bénéfiques se fassent sentir, d'une part, et d'autre part, on a un peu du mal à évaluer, puisque ce confinement est quand même un confinement où on a expliqué aux gens qu'ils avaient le droit de tout sauf d'avoir des loisirs. Donc en réalité, c'est pas vraiment un confinement et on a du mal à voir quelle incidence ça aura sur le nombre de malades. Ce qui est sûr, c'est pas pour l'hôpital de Lens, d'un point de vue national. L'Institut Pasteur a envoyé un mail, là, il n'y a pas longtemps, à tous les médecins qui prenaient en charge des patients Covid pour leur expliquer qu'en gros, ils estimaient à la fin de la semaine 47 les besoins de lits de réanimation et de soins intensifs à 15 000 et que pour l'instant, au mieux, on en disposait de autour de 11 000, on va dire. Hein. Donc, en tout cas, il y aura trop de malades fin de semaine 47 par rapport à ce qu'on est capable d'assumer. Donc, il faut que le confinement marche parce que sinon, on va vraiment être dans une grande difficulté avec des malades qu'on ne pourra pas hospitaliser dans le secteur adapté. Alors ça, c'est une vraie angoisse. Voilà. Sur l'hôpital de Lens, on a remarqué aussi que les patients qui étaient le plus gravement atteints par le Covid, c'était ceux qui étaient malheureusement en situation d'obésité ou de diabète. Et ces deux maladies qui sont très importantes dans le bassin minier, parce que c'est des maladies aussi qui sont liées parfois aux conditions de vie et aux conditions sociales des gens. Donc en réalité, le Covid est une maladie qui frappe plus durement les populations pauvres des pays riches. C'est pour ça que dans notre coin, à Lille-Roubaix-Tourcoing, dans le bassin minier, voilà, la gravité de l'épidémie est encore majorée par rapport à d'autres régions de France qui sont un petit peu plus favorisées que nous sur le plan des maladies qui font que le Covid devient dangereux pour les gens.
Est-ce que tu peux revenir sur les conditions de travail, donc là où tu travailles à l'hôpital de Lens, des conditions matérielles et humaines ?
Alors, les conditions de travail sont celles qu'on connaît depuis toujours. Rien n'a été amélioré, enfin depuis toujours, depuis quelques années. Et celles qu'on dénonce avec force depuis quelques années. D'ailleurs, j'étais venu à votre antenne le dire il y a quelques temps, avant que le Covid frappe. On n'a pas assez de lits pour soigner l'intégralité des malades qui se présentent à nous l'hiver, puisqu'on a affaire en face de nous à des administratifs qui veulent gérer des moyennes d'activité, alors que l'hôpital ne peut pas fonctionner en moyenne d'activité, l'hôpital fonctionne en pic d'activité selon les saisons. Et le ministre Véran nous explique qu'en gros, ben oui, on a raison, en fait, il y a des pics d'activité, donc ce qu'on peut faire, c'est fermer des lits quand on n'a pas besoin, réouvrir lorsqu'on a besoin. En réalité, on ne peut pas calquer le système Uber sur ce qui se passe à l'hôpital. À l'hôpital, on a besoin de gens formés et de structures qui sont rodées, d'équipes qui sont rodées pour prendre en charge les pics d'activité quand il y en a. Et puis aussi, effectivement, se reposer, se former, s'organiser pour pouvoir rebondir lorsque de nouveau les périodes seraient difficiles. Mais aussi des équipes, oui, il faut admettre que parfois, il y a un peu moins de travail dans une équipe et que parfois, il y en a plus. Mais on ne peut pas faire ce que dit le ministre. C'est-à-dire, on ouvre des lits l'hiver, on les ferme au printemps, il y a une épidémie, on ouvre 5 000 lits de réa. C'est ce qu'il nous a dit à la fin de la première vague. en réalité, ils n'ont même pas réussi à en ouvrir la moitié puisqu'ils n'ont pas le personnel. Ça fait 10 ans qu'ils ferment des lits et qu'ils ne forment plus de personnel. On ne peut pas, voilà, entre deux vagues d'épidémie, d'un seul coup, parce qu'un ministre claque des doigts, former des médecins, des infirmiers. Non, c'est l'échec de leur politique, ça. Hein.
Donc, ce qui veut dire que entre la première et la seconde vague, il ne s'est rien passé, c'est ça ?
Ah, mais clairement, il ne s'est rien passé et à tous les niveaux. Il faut prendre niveau par niveau. Il ne s'est rien passé d'un point de vue industrialisation de notre pays. Il est toujours hallucinant que notre pays ne puisse pas produire les médicaments dont il a besoin. J'en veux pour preuve, et vos auditeurs en ont sans doute fait les frais, la pénurie qui s'annonce sur le vaccin anti-grippe, alors qu'on savait très bien qu'on allait avoir besoin de majorer la vaccination anti-grippale cette année pour éviter d'avoir à gérer deux épidémies au lieu d'une. Et malgré ça, ça fait 8 mois qu'on le sait, on n'a pas été capable de le produire. Parce qu'on n'a pas d'industrie pharmaceutique en France qui soit capable de gérer ça. C'est la même chose pour le matériel qui pourrait paraître du petit matériel, mais qui est essentiel aujourd'hui. Les masques, les blouses, les surblouses, on en est encore aujourd'hui, au début de cette deuxième vague, à se protéger avec des sacs poubelles et avec des masques qui sont pas homologués. C'est complètement anormal parce qu'on avait 8 mois à se préparer. Donc de ce point de vue-là, le pays n'a rien fait. Du point de vue hospitalier pur, c'est pareil. L'hôpital a toujours en tête qu'il faut limiter la masse salariale puisqu'à la fin de l'épidémie, il faut surtout pas avoir pris des gens dont on ne saura que faire lorsqu'il y aura un petit peu moins de travail. En particulier d'ailleurs sur l'hôpital de Lens puisque le nouvel hôpital de Lens prévoit 1/3 de lits en moins. Et que du coup, on est déjà 1/3 de personnel en trop. Donc, leur occupation, c'est de ne pas embaucher de personnel pour ne pas avoir à supprimer des postes demain lorsque le nouvel hôpital sera là. Ce qui veut dire concrètement que depuis 8 mois, rien n'a été fait pour fidéliser le personnel qui était en place, puisqu'on a continué d'avoir une fuite de personnel et énormément de personnel qui a quitté l'hôpital un peu avant la première vague, mais depuis la première vague, ça a continué, le Ségur de la santé n'a strictement rien réglé. Et d'autre part, on n'a absolument pas non plus cherché à recruter des gens en disant « voilà, la deuxième vague va nous arriver » puisque contrairement à ce que disait Macron à la télé quand il disait « oui, on a tous été surpris par la deuxième vague ». Non, personne n'a été surpris. Toutes les épidémies ont toujours eu une deuxième vague qui a toujours été plus dramatique que la première. Dans l'histoire de la santé, ça a toujours été comme ça. Et on aurait dû anticiper en prévoyant dès la fin de la première vague les moyens de recruter et de fidéliser du personnel pour pouvoir aujourd'hui faire face. Aujourd'hui, à l'hôpital de Lens, on a pris la décision d'ouvrir 8 lits de réanimation supplémentaires. C'est une décision qui a été prise 15 jours. Ils ont mis 10 jours pour pouvoir ouvrir que 4 lits parce qu'ils ne trouvaient pas de personnel. Et puis là, on arrive enfin peut-être à ouvrir 6 lits sur les 8 prévus. Tout ça parce qu'on n'a pas de personnel. Ils attendent d'être au pied du mur pour essayer de trouver des solutions et évidemment, c'est pas comme ça qu'on peut gouverner.
S'il y avait eu plus de moyens, est-ce qu'on aurait pu éviter ce reconfinement, en tout cas mieux encaisser cette deuxième vague ?
Alors, je veux pas être démago j'essaie en général de commencer comme ça, et là je l'ai pas fait avec vous, mais je pense qu'il faut être très clair avec les gens et pas être démagogique. Les caractéristiques de l'épidémie de coronavirus fait que lorsque ça commence à nous échapper, alors on aurait pu confiner plus tôt pour essayer de le faire durer moins longtemps, etc., mais en tout cas, le confinement aujourd'hui est la seule solution. Il faut pas tourner autour du pot, il faut pas discuter, il faut confiner. Il faut confiner vraiment, d'ailleurs pas comme on le fait aujourd'hui. Il faut confiner vraiment parce que demain, c'est la seule chose qui fera qu'on évitera de mettre des gens dans des situations très compliquées. Parce que c'est pas parce qu'on est en réanimation, qu'on a trouvé une place en réanimation, que notre vie est sauvée lorsqu'on a le coronavirus. Donc non, le but du jeu, c'est d'éviter d'aller en réanimation. Et donc le confinement est un impératif. Ceci étant dit, oui, le confinement est un impératif, mais malgré ça, il y a des gens qui nous arrivent en réanimation. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de les soigner parce qu'on n'a pas les moyens de les soigner dignement et avec tout le respect et toute la spécificité, la technicité que ces gens mériteraient. Donc oui, il faut un confinement. Il ne faut pas dire que si on avait eu plus de moyens, il n'y aurait pas eu de confinement. Mais oui, si on avait eu plus de moyens, ça éviterait que les gens restent aux urgences, par exemple, 48, 72 heures, qu'on doive transférer de région à région en mobilisant des hélicoptères, des avions de l'armée, des TGV, comme ils ont fait à la première vague. Enfin, c'est vraiment... on aurait eu les moyens de soigner les gens qui nous arriveraient, on l'aurait fait en sauvant le maximum de personnes comme on fait aujourd'hui, mais on l'aurait fait dans des conditions qui soient meilleures et qui soient aussi plus protectrices du personnel, parce que aujourd'hui on en est à faire des notes de service dans les hôpitaux où on demande aux gens qui sont testés positifs mais qui ont peu de symptômes. Quand je dis peu de symptômes, c'est si vous avez la diarrhée, par exemple, on vous demande de venir travailler quand même. Je vous laisse imaginer, lorsque vous mettez votre combinaison intégrale pour venir travailler, la combinaison de Covid, quoi, hein, la combinaison intégrale avec la fermeture éclair qui va jusqu'en haut du menton, quoi, hein, et puis que vous venez travailler avec un Covid et que vous avez la diarrhée, et l'employeur vous dit « mais si, vous pouvez venir travailler parce que vous n'avez pas assez de symptômes pour rester à votre maison ». C'est vraiment, on en est vraiment arrivé à un stade qui est complètement inhumain, qui épuise les hommes et qui de toute façon ne sont pas efficaces. Les trois pays les plus durement touchés d'un point de vue économique par la crise du Covid, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Et c'est les trois pays d'Europe où il y a le moins de nombre de lits par habitant. Ça veut donc dire que si on avait investi dans la santé hier, il aurait fallu faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on s'en serait sorti plus vite, et en tout cas, on s'en serait sorti avec moins de dégâts économiques derrière. Ça, c'est une évidence.
Donc toi, tu travailles en hôpital public.
Oui.
On se posait la question des hôpitaux privés, des cliniques. Est-ce que ces établissements participent à l'effort ?
Alors, on entend tout doucement cette musique, puisque sur la première vague, on a beaucoup parlé des hôpitaux publics. En réalité, effectivement, on n'est pas les seuls à faire un effort, puisqu'il y a les cliniques, évidemment, qui font un effort. Le premier effort que font les cliniques, d'ailleurs, c'est d'arrêter d'opérer, pour arrêter de consommer des produits, d'anesthésie notamment, dont on a atrocement besoin en réanimation, puisqu'on n'est pas capable d'en produire en quantité suffisante. Ce qui crée des dommages collatéraux, hein, parce qu'il y a des gens qui attendent d'être opérés, et ça peut créer des pertes de chance pour le malade, parce qu'on n'a pas assez de médecins anesthésistes et d'infirmiers anesthésistes qu'on est obligé de prendre en clinique pour aller remettre dans le public. Et pareil, on n'a pas assez de produits, et on est obligé de prendre les produits des cliniques pour les mettre... Voilà. Donc ça, c'est voilà, on entend cette musique qui ferait dire que finalement, à la deuxième vague, ben, les hôpitaux et les cliniques vont travailler plus de concert pour essayer de gérer mieux que ça avait été mieux géré la première fois. En réalité, les cliniques sont rémunérées à l'activité. Donc si elles font pas l'activité, elles n'ont pas de rémunération. Et si on ne les contraint pas, elles ne vont pas faire. Parce que c'est pas leur modèle économique. On sent bien que les ARS ont réussi à négocier un petit peu pour que les cliniques assument une petite part de travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cliniques ne sont pas prévues pour ça. Les cliniques, elles sont prévues pour faire de l'activité chirurgicale programmée, que ce soit de l'ambulatoire ou de l'hospitalisation. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que les gens qui nous disaient hier que l'ambulatoire est la solution à tous les problèmes, aujourd'hui, on les entend pas. Parce que c'est eux qui ont fait fermer les lits, qui nous manquent aujourd'hui. Hein. Et c'est d'ailleurs les cliniques qui font le plus d'ambulatoires. Donc les cliniques ne peuvent pas nous aider à tout ça. Donc elles prennent une part de travail, elles font ce qu'elles peuvent, mais en réalité, leur pénurie plus notre pénurie, ça fera jamais quelque chose de carré. L'hôpital public est celui qui possède le maximum de lits de réanimation et celui qui possède le maximum de personnel qualifié pour pouvoir prendre en charge les malades les plus graves. Si l'hôpital public n'est pas capable de gérer ça, les cliniques viendront nous dépanner, mais elles ne feront pas le travail à notre place, elles ne peuvent pas assumer cette part de travail. Et puis les cliniques privées, il faut aussi se dire qu'il y a plusieurs catégories de cliniques privées. C'est un peu confus dans la tête des gens, y compris des professionnels de santé d'ailleurs, ce qu'on finit par plus savoir puisqu'on fait l'amalgame entre tout. Mais il y a l'hôpital public, il y a les cliniques privées qui sont des cliniques privées associatives et qui participent au secteur public hospitalier. C'est par exemple l'ANAC dans notre territoire, la clinique de Liévin, la clinique Bénin-Beaumont, et qui participent, mais pas depuis le Covid, qui participe depuis toujours à l'effort de santé publique. Et puis, il y a d'autres cliniques qui sont gérées par des fonds de pension étrangers. C'est le cas, par exemple, de Bois-Bernard. C'est le cas de tout un tas de cliniques comme ça qui sont privées à but lucratif, dont l'objet est de faire des sous, dont l'objet est de rémunérer des fonds de pension étrangers pour que les maladies des malades français payent les retraites des retraités australiens, par exemple. En ce qui concerne, par exemple, la clinique de Bois-Bernard, c'est un fonds de pension australien. Donc ces gens-là feront, si l'ARS les contraint, feront un petit peu leur part de travail durant la crise, mais dès qu'elles pourront faire autrement, elles feront autrement. Hein. Donc non, il faut pas compter sur les cliniques, puisque c'est une partie du problème de la santé aujourd'hui, des cliniques à but lucratif qui viennent chercher un marché. Il faut pas compter sur les gens qui ont créé un problème pour demain nous aider à en régler d'autres.
Enfin, je terminerai par une question d'ordre d'organisation collective des travailleuses et des travailleurs. Est-ce qu'elle existe et est-ce que tu peux en parler ?
Oui, alors, on a remarqué lors de la première crise du Covid que les administrations ont toutes été complètement débordées, en particulier dans notre territoire, puisque les gens le savent assez peu, mais l'Agence régionale de santé n'avait pas de directeur. Elle avait un directeur par intérim, puisque la directrice qu'on avait était partie en retraite, mais après avoir récupéré un compte épargne temps qui a duré des mois et des mois, et qui a été remplacée par un directeur qui n'est resté que 2 mois, et finalement l'intérim a été plus long, bien plus long que les 2 directeurs qui se sont succédés. L'ARS était débordée, d'ailleurs on ne l'a pas vu, inexistante pendant la première crise. Voilà. Nos directions ont été un peu dans le même état. Nos directions ont été sidérées parce que le modèle qu'elles avaient envisagé, c'est-à-dire on supprime des lits d'hôpitaux parce que il faut absolument faire de l'ambulatoire à tout prix, on s'est retrouvé face à une épidémie qui nous imposait des lits. Et puis c'est leur modèle qui s'effondrait. Donc ils se sont tus. Et ils ont donné un petit peu carte blanche au personnel pour gérer cette épidémie. Et le personnel s'est très bien organisé. Les infirmiers anesthésistes qui sont les plus qualifiés des infirmiers pour ouvrir du jour au lendemain une réanimation. Parce que les infirmiers de réanimation, eux, sont déjà occupés à la réanimation, donc ils sont très habitués, évidemment, ils sont très compétents, mais ils étaient déjà dans le jus, donc on pouvait pas les mobiliser. Ce qu'on pouvait mobiliser en plus, c'était... Donc, on a annulé des blocs, les chirurgiens ont joué le jeu, les anesthésistes se sont mis à disposition des réanimations, puisque c'est leur cœur de métier également, et puis voilà, tout s'est bien organisé. Du jour au lendemain, lorsqu'on est arrivé pas loin du déconfinement vers le 11 mai, là, du jour au lendemain, on a senti que les directions reprenaient la main. Elles sont revenues sur les organisations qui avaient été mises en place et qui fonctionnaient très bien pendant le Covid pour revenir aux organisations antérieures. C'est-à-dire, c'est bon, là, on n'a plus besoin de vous, on referme le service, là, on referme, tel contrat, on renouvelle pas. Enfin, voilà, elles ont repris la main. Sur la deuxième vague, on sent qu'elles veulent pas se laisser déborder comme la première fois. C'est-à-dire que d'emblée, ils ont comprimé le recrutement des contrats pour venir nous dépanner. D'emblée, ils ont contraint des organisations qui ne paraissaient pas pertinentes au personnel. Et pour cause, moi, je vais vous prendre un exemple qui m'a fait rire jeune, mais voilà, enfin, qui m'a mis autant en colère qu'il m'a fait rire. Lorsque le premier week-end, il y a 15 jours, 3 semaines, nous arrivait beaucoup de malades de Covid, on a téléphoné à l'administrateur de garde, c'est-à-dire le représentant de la direction le week-end, pour lui dire le vendredi soir, vous savez, on va pas finir le week-end avec si peu de place pour les malades, parce que là, ça y est, le Covid, c'est parti chez nous. Et il nous propose, en réponse, il dit, ben, j'ai pas de solution à vous proposer, ce que je vous propose, c'est de mettre les malades dans le service de pneumo et on réglera le problème lundi. Pour la petite histoire, ils ont fermé le service de pneumologie il y a 4 ans. Ils se souviennent même pas du nombre des services qu'ils ont fermés, tellement ils en ont fermé. On n'a plus de pneumo à Lens, ils nous proposent d'y mettre les malades. Voilà, ils en sont là. Ils ont voulu reprendre les choses en main et ils n'en sont pas capables. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été capables avant de faire quoi que ce soit, donc ils n'en seront pas capables demain. Et effectivement, encore une fois, je ne compte pas sur les gens qui ont créé des problèmes pour les résoudre. Pour enfoncer le clou sur l'hôpital de Lens quand même, on a plus de 30% de la masse salariale qui est de l'emploi non soignant. C'est un des records de la masse salariale non soignant des hôpitaux de la région. Valenciennes, par exemple, qui est le contre-exemple, qui est celui qui en a le moins, hein, ils sont à 8%. Alors, je dis pas que c'est mieux de travailler avec 8% d'emplois non soignants, ça leur cause peut-être des problèmes d'organisation. En réalité, entre 8 et le 32-33%, il y a une marge, là, il y avait sans doute un juste milieu à trouver. En tout cas, le nombre de personnes qu'on a à la direction ne nous empêche pas qu'on ait au moins, si ce n'est plus, de problèmes que les autres. Quoi.
Bon, j'imagine que, notamment en cette période, vous êtes énormément débordés, vous, les personnels soignants, mais quelles sont les réactions, en quelque sorte, de ce que tu vois autour de toi ? Est-ce qu'il y a des moyens d'action, ou quelles qu'elles soient ? Bon, j'imagine que c'est assez compliqué avec la période actuelle.
Oui, c'est ça, c'est que, moi, je dis toujours, et pourtant, je suis pas le dernier à revendiquer, voilà. C'est pas pendant la crise qu'on pourra revendiquer. Voilà. Là, pour l'instant, aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'aller sauver le maximum de monde. Et après, mais tout de suite après, dès que ça sera fini, il faudra aller réclamer ce qui nous est dû avant que la honte disparaisse de leur visage, mais je sais même pas si ces gens-là ont déjà eu honte un jour, en fait. Puisque ceux qui nous expliquaient hier qu'il y avait trop de lits et qu'il fallait fermer des lits à tout prix continuent de le dire aujourd'hui. Par exemple, le nouvel hôpital de Lens sera le premier hôpital post-Covid construit. C'est le premier hôpital en France qui sortira de terre après la crise du Covid. Le nouvel hôpital de Lens prévoit la réduction des lits de un tiers des lits. C'est un tiers des lits, c'est énorme, c'est ce qui nous manque. L'hôpital de Lens a eu jusque 1200 lits dans les grandes années 80. Là, aujourd'hui, on en est péniblement à 650, on va dire, parce que c'est compliqué, hein. On en ouvre 10, on en ferme 30, on a du mal à faire un compte, ça change tous les jours, mais en tout cas, l'objectif dans le nouvel hôpital, c'est 570 lits, pas un de plus. C'est-à-dire qu'on aura diminué par deux la taille de l'hôpital par rapport à celui des années 80. Alors, ils nous expliquent tous depuis 10 ans que c'est parce qu'il y a la chirurgie ambulatoire, etc., mais qui viennent me l'expliquer aujourd'hui, quand j'ai 18 malades Covid que je ne sais pas placer dans les urgences, qui viennent me l'expliquer aujourd'hui, quand on est obligé de dire à des gens « on peut pas vous opérer aujourd'hui parce que finalement il faut qu'on choisisse dans les maladies ». C'est soit on opère quelqu'un malade du cœur aujourd'hui, soit on soigne quelqu'un d'autre du Covid, mais les deux en même temps on n'est plus capable de le faire parce qu'on a tellement comprimé sur le personnel et sur le nombre de places qu'on peut pas faire les deux en même temps. Donc oui, aujourd'hui, on s'organise pour être solidaire entre nous. Il y a de la solidarité pour garder les enfants quand on travaille, pour donner un repos à un collègue quand on sait que voilà, il est en attente de résultats Covid et que il n'y a pas moyen de se faire mettre en arrêt maladie alors qu'il a tous les symptômes tant que le test est parvenu positif, etc. Et puis les organisations syndicales, je l'espère, feront leur boulot au lendemain de la crise. Je prends l'expérience de la première vague, hein. Il y a eu le Ségur 2, ils avaient compris, les gouvernements. Ils ont fait un Ségur 2 tout de suite pour qu'il se règle pendant les vacances, pour pas qu'il puisse y avoir de mobilisation du personnel. Et puis, ils ont réussi, ils ont trouvé un accord qui était majoritaire, très faiblement majoritaire, grâce à la signature de FO et de CGT, de la CFDT, pardon. La CFDT est habituée à trahir, alors personne n'a été surpris. Le FO a signé, on sait pas trop pourquoi, un accord qui, de toute façon, n'a rien réglé, puisque on le voit bien aujourd'hui, au pied de la deuxième vague, le personnel a continué de fuir l'hôpital puisqu'il est toujours parmi les plus mal payés de l'OCDE. Et surtout, la philosophie, qui est de dire il faut réduire des lits à tout prix puisque s'il n'y a pas de lits, ça coûte moins cher à l'État, et ben la philosophie n'a pas changé, quoi. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui et qui nous tuera demain. Donc moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'à la fin de la deuxième vague, comme à la fin de la première vague, les gens n'aillent pas revendiquer. Moi, je travaille dans un service où en 2009, on a 30% des infirmiers qui ont quitté le service. On a perdu des infirmiers d'expérience pour remplacer par des contrats dont on leur explique d'ailleurs qu'on les gardera pas à la fin de la crise, qui ont parfois 15 jours de diplôme. Il y a une dilution des connaissances et manifestement, c'est profitable à personne, ni aux équipes, et c'est là l'essentiel, ni aux malades. Donc, j'aimerais que les gens aillent revendiquer. Moi, je préférerais que les gens aillent revendiquer le lendemain de la crise du Covid plutôt qu'ils démissionnent et qu'ils quittent l'hôpital. Parce que ceux qui quittent l'hôpital, ils vont pas exercer sur la lune. Hein. Ils vont soit bosser en clinique où les conditions de travail finissent par être meilleures, ou parfois même ils sont mieux payés, selon les qualifications des agents. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est parfois vrai. Ou alors partent en médecine de ville, en infirmier libéral, voilà. Voire même en médecine du travail, on en a vu vraiment qui ont fait le grand écart par rapport à leur carrière hospitalière. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont perdus, ils sont perdus, ils ne reviendront plus. Donc s'il y a une troisième vague, je ne sais pas avec qui on va aller faire la guerre pour l'instant. La première vague, on allait à la guerre avec nos sacs poubelles. Maintenant, on va à la chasse à l'ours avec des fléchettes en plastique. S'il y a une troisième vague, on n'aura même plus de soldats. We'll be right back.
importa que sigan los problemas siempre van a estar. Pero tu mente tiene que estar en paz.
L'hôpital ne peut pas être l'affaire que des gens qui y travaillent. Donc ce qu'il faut, c'est que vraiment, dès que la crise sera finie, que l'ensemble des gens qui un jour peuvent avoir affaire à l'hôpital, c'est-à-dire quand je vous dis ça, en réalité, c'est tout le monde, puisque tout le monde peut avoir affaire à l'hôpital, se rendent compte que s'ils ne viennent pas avec nous dans la rue réclamer notre dû, ne viennent pas réclamer un hôpital de Lens, qu'il ne soit pas un hôpital low cost comme celui qui nous prévoit dans 2 ans ou dans 3 ans. D'ailleurs, il a déjà 10 ans de retard, on n'est plus à 5 ans près. S'ils ne viennent pas avec nous dans la rue réclamer que leurs infirmiers, leurs médecins ne soient pas les plus mal payés des pays de l'OCDE, qu'ils soient en nombre suffisant, que le bassin minier arrête d'être méprisé. On a dans le bassin minier moitié moins de lits de réanimation par habitant que les autres régions de France. C'est pas normal tout ça. Et si les gens viennent pas avec nous, nous on le fait, on va réclamer, mais tout seul on n'y arrive pas. Donc il faut que les gens viennent avec nous et demain ensemble on fera que cette préoccupation qui est primordiale soit enfin reconnue comme étant une préoccupation primordiale. La France est le pays du monde où les milliardaires ont vu leur fortune grandir le plus vite ces dernières années. Plus vite qu'aux États-Unis, aussi vite que les Chinois. Donc on a les moyens d'eux. C'est parce qu'on ne veut pas nous les donner. Mais les moyens, ils sont là, ils existent. Et je pense aussi que c'est une évidence, parce que les changements climatiques, les changements de mode de vie, avec maintenant les marchandises qui traversent la planète, etc., on n'est pas au bout des épidémies. C'est une première épidémie avec le Covid. Demain ou après-demain ou dans les années qui viennent, ce sera autre chose. Pour prendre en charge tout ça, il nous faut une santé de qualité. Et nous, on revendique la santé de qualité, mais on n'y arrive pas tout seul. Donc il faut que les gens viennent avec nous.
Merci Jean Letocard pour tes réponses. Je rappelle donc que tu es infirmier anesthésiste à l'hôpital de Lens.